Chapitre 12. Bourges, 5 août. Je m'éveille à 7 heures. Ma première pensée pour M. Mouillard. Où est-il? J'écoute, rien. Je vais à la fenêtre, le petit clerc de l'étude, couché à plat ventre sur la pelouse, jette du pain aux poissons rouges du bassin. Ce signe ne saurait me tromper, mon oncle n'est pas là. Je descends à la cuisine. Eh bien, Madeleine, il est parti? À 6 heures, monsieur Fabien. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillée? Est-ce que je pouvais savoir, lui qui ne sort jamais, au grand jamais, le matin? Il est comme je ne l'ai jamais vu, pas même à la mort de sa défunte femme. Qu'a-t-il? Je crois que c'est l'étude qu'il va vendre. Il m'a dit hier soir au pied de l'escalier. Madeleine, je suis un homme fini. J'aurais pu revivre, mais il y a un ingrat, un sauvage, sauf votre respect, monsieur Fabien, qui n'a pas voulu. Si je le tenais, je ne sais pas ce que je lui ferais. Il n'a pas dit ce qu'il ferait au sauvage. Non, alors en montant, j'ai coulé sous la porte un petit billet. Oui, je te remercie. Et ce matin, est-il calmé? Il n'a plus l'air en colère, seulement j'ai vu qu'il avait pleuré. Où est-il? Je n'en sais rien. D'ailleurs, essayez de le rattraper, monsieur. Autant vaudrait essayer de rattraper un cerf. C'est vrai, mieux vaut l'attendre. Quand doit-il rentrer? Pas avant 10 heures. Je vous dis que ça ne lui arrive pas une fois dans l'année de s'absenter le matin. Mais Madeleine, à 10 heures, Jeanne sera là. Elle s'appelle Jeanne? Oui, monsieur Charnot sera là aussi. Et mon oncle, que je devais préparer à leur visite, ne saura rien, pas même que j'ai passé la nuit sous son toit. Le fait est, monsieur Fabien, que l'affaire ne me paraît pas bien engagée. Enfin, il y a le hasard qui ne dit souvent son mot qu'à la fin. Intercède-le pour moi, ma bonne Madeleine. Mais le hasard fut inexorable. Mon oncle ne rentra pas. Je ne trouvai aucune idée neuve. En me rendant à la gare, anxieux et mécontent, je me posai encore ce problème que j'agitais déjà depuis 1 heure, inutilement. Je n'ai rien dit à M. Mouillard. À présent, faut-il dire quelque chose à M. Charnot? Mes appréhensions redoublèrent quand je vis passer, emportés par le train, Jeanne et M. Charnot, accoudés à une portière. Une minute après, elle descendait, tout en gris, les joues roses, 2 ailes de mouette à son chapeau. M. Charnot me serra la main, avec une véritable satisfaction de sortir du wagon, de se secouer, de sentir la terre ferme, me demanda des nouvelles de mon oncle et, sur ma réponse qu'il se portait à merveille, alla reconnaître les bagages. « Eh bien, me dit Jeanne, tout est arrangé ?»« Rien, au contraire. »« Vous l'avez vu ?»« Pas même. J'ai guetté le moment favorable sans le trouver. Hier soir, M. Mouillard était occupé. Ce matin, il est sorti à 6 heures. Il ignore même ma présence à Bourges. » J'ai couché sur un canapé de sa bibliothèque. Elle me regarda d'un air qui signifiait « Mon pauvre ami, que vous êtes peu pratique !»« Continuez à ne rien faire, dit-elle, et c'est ce que vous ferez de mieux. Si mon père ne se croyait pas annoncé, il reculerait. » M. Charnot revenait en ce moment vers nous, les 2 valises et le carton à chapeau étant logés sur l'impériale de l'omnibus de l'Hôtel de France. « C'est bien là que vous avez retenu nos chambres ?»« Oui, monsieur. Il est 9h12. Annoncez notre visite à M. Mouillard pour 10 heures précises. » Je les accompagnai quelques pas. Ils montèrent dans la voiture qui partit au grand trot de ces 2 percherons. Quand je les eus perdus de vue, en ramenant mes regards autour de moi, je découvris sous la marquise 3 personnes en ligne qui me considéraient. Je reconnus monsieur, madame et mademoiselle Lorinet. Ils souriaient tous 3 de la même façon méprisante et moqueuse. Je saluai. L'homme seul répondit en soulevant son chapeau. Par une fatalité incroyable, Berthe portait encore une robe bleue. Je repris la direction de la rue du Four, heureuse et bouleversée, ébauchant des projets qui se détruisaient les uns les autres, tantôt béat, tantôt me chargeant moi-même d'imprécations plus vives que ne le furent jamais celles de Camille. Je longeais les rues cachées sous mon parapluie, car il pleuvait. Une grosse nuée d'orage crevait sur Bourges, et je bénissais la pluie qui permet à l'homme de voiler son visage. La course est assez longue des bords de la Voiselle au vieux quartier de la cathédrale. Quand je débouchais de la rue moyenne, ce boulevard des Italiens de la capitale berrichonne, pour entrer dans la rue du Four, un soleil éclatant séchait l'eau sur les toits et l'horloge à coucou de M. Festuquet, un voisin de mon oncle, sonnait l'heure du rendez-vous. Je n'attendis pas 3 minutes à la porte du jardin dont Madeleine m'avait donné la clé. M. Charnot parut, donnant le bras à Jeanne. « Figurez-vous que j'ai oublié mes caoutchoucs, moi qui ne manque jamais de les emporter quand je vais à la campagne. »« Oh, la campagne, mon père !» dit Jeanne. « Bourges est une ville !»« Certainement, » répondit M. Charnot, qui craignait de m'avoir blessé. Il prit ses lunettes et se mit à considérer les vieux hôtels avoisinants. « Une ville, une véritable ville !» Je ne me souviens plus quelle sottise je balbutiais. C'était bien des caoutchoucs de M. Charnot et de la réputation de Bourges que je me souciais en ce moment. Derrière le mur, là, tout près, je devinais M. Mouillard. Je songeais qu'il fallait ouvrir cette porte, lancer sans préparation cet académicien au devant de cet avoué, risquer peut-être mon bonheur sur une impression de mon oncle, jouer enfin la décisive partie si déplorablement engagée. Jeanne, quoi qu'elle fît pour ne pas le montrer, était bien émue. Je sentis trembler la main qu'elle me tendit. « À la grâce de Dieu, me dit-elle tout bas, ouvrez !» Je mis la clé dans la serrure. Il était convenu que Madeleine irait aussitôt prévenir M. Mouillard que des étrangers l'attendaient au jardin. Mais soit qu'elle ne veillât pas, soit qu'elle ne nous eût pas tout de suite découvert, nous restâmes quelques instants au bout de la pelouse sans que personne vînt à nous. Je m'effaçai derrière les noisetiers dont les touffes cachent les murs. M. Charnot trouvait cette campagne fort belle et se tournait de tous côtés avec de petits susurrements de gourmandise. Car il était exquis, le jardin de mon oncle. Les feuilles, lavées par la pluie, luisaient bien vertes. De grosses gouttes tombaient des arbres avec un bruit argentin. Dans les corbeilles, les pétunias ouvraient tous leurs calices et nous enveloppaient de leurs parfums. Des oiseaux, muets pendant l'averse, volaient, piaillaient, chantaient sous les branches, et j'étais comme fou, et il me sembla qu'ils parlaient. Le pinson disait « Vieux mouillard, tu ne vois donc pas cette fauvette qui vient d'entrer ?» La maison, je disais, « Prends garde, bonhomme, elle a plus d'esprit que toi. » Le merle disait, « J'ai entendu parler d'elle par mon grand-oncle, un merle des Champs-Élysées. Elle y était fort remarquée. » L'hirondelle disait, « Le temps pour moi de faire le tour de la pelouse, et cette Jeanne vous prend le cœur. » Le corbeau, qui est un peu notaire, s'élançait des tours en criant, « Bah, 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 pourquoi pas, 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 un petit contrat ?» Tra, tra. Et tous reprenaient en cœur. Si vous aviez nos yeux, monsieur Mouillard, vous la verriez qui regarde votre étude. Si vous aviez des oreilles, monsieur Mouillard, vous l'entendriez qui soupire. Si vous aviez nos ailes, monsieur Mouillard, vous voleriez vers Jeanne. Ce fut sans doute ce concert inusité qui attira l'attention de Madeleine. Nous la vîmes se diriger, droite, lente, du côté de l'étude, située dans l'angle du jardin. La haute silhouette de M. Mouillard se dressa sur le seuil, occupant toute l'ouverture de la porte. « Dans le jardin, dis-tu, qu'est-ce que cette idée de faire entrer les clients dans le jardin, à présent? Pourquoi leur as-tu ouvert ?»«
Je ne leur ai pas ouvert, ils sont entrés. »
Alors la porte n'était pas fermée, rien n'est fermé ici, ils entreront bientôt par la cheminée de mon salon. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ?
Un monsieur et une demoiselle que je ne connais pas.
Une demoiselle que tu ne connais pas? Une séparation de corps, je parie. C'est insensé, ma parole d'honneur. Il y a des gens qui ont la manie de venir me causer de leur séparation de corps avec leur demoiselle.
Pendant que Madeleine, fuyant l'orange, regagnait sa cuisine, M. Mouillard, en 2 coups de paume, releva ses cheveux blancs, sa dernière coquetterie, et s'engagea dans l'allée qui tourne autour de la pelouse. Je me dissimulais complètement sous l'abri des noisetiers. M. Charnot, me croyant derrière lui, marchant en avant d'une allure dégagée. Mon oncle s'avançait nonchalamment, comme un homme que le poids des affaires accablerait, trop heureux encore de prendre une récréation d'une minute entre le client qui sort et celui qui entre. Mon oncle a toujours aimé qu'on le crût accablé. En passant, il donna une chiquenaude à un bouton de rose dévoré par les pucerons, enleva du bout du pied un limaçon promeneur qui traversait l'allée, puis, à mi-chemin, redressant brusquement la tête, il regarda l'importun. Ses sourcils froncés se détendirent, un étonnement immense lui arrondit les yeux. « Serait-ce possible, Monsieur Charnot, de l'Institut ?»« Moi-même, Monsieur Mouillard. »« Et Mademoiselle Jeanne, sans doute ?»« Parfaitement. Qui vient avec moi vous rendre votre bonne visite ?» En vérité, c'est trop aimable, beaucoup trop. Un pareil déplacement pour venir me voir. Rien de plus naturel, au contraire, au point où en sont ces jeunes gens. Ah, vous mariez mademoiselle, alors ? Eh, sans doute, nous y pensons, dit M. Charnot en riant. Mes compliments, mademoiselle. Et je vous l'amène, M. Mouillard, pour vous la présenter, vous y avez droit. Oh, un droit, pour ça, non. « Mais si. Permettez, monsieur, la politesse est une excellente chose, mais il faut être franc avant tout. Si je suis allé vous voir à Paris, c'est en grande partie pour obtenir un renseignement. Vous me l'avez donné. En vérité, non, cela ne valait pas la peine de venir de Paris à Bourges pour me remercier, surtout avec votre fille. Permettez à votre tour. La modestie a également ses limites, monsieur Mouillard. » Votre neveu devant épouser ma fille, et ma fille passant à Bourges, il est tout naturel que je vous la présente. Je n'ai plus de neveu, monsieur. Il est ici. Et je n'ai pas demandé votre fille. Non, mais vous avez reçu votre neveu, et dès lors ? Jamais. Monsieur Fabien est chez vous depuis hier. Il vous a prévenu. Non, je ne l'ai pas vu, je ne l'aurais pas reçu, je n'ai plus de neveu, vous dis-je. « Je suis un homme fini, un. » La voix lui manqua, son visage devint pourpre, il chancela, tomba lourdement assis, puis à la renverse, et demeura immobile sur le sable de l'allée. J'accourus. Quand j'arrivai près de mon oncle, Jeanne était déjà revenue du petit bassin où elle avait trempé son mouchoir et humecté d'eau fraîche les tempes de M. Mouillard. Elle seule agissait. Madeleine avait soulevé la tête de son maître et se lamentait. « Hélas, disait-elle, je parie que c'est sa grande colique d'il y a 10 ans qui lui reprend. A-t-il été malade, mon Dieu ? Je me rappelle que ça lui a commencé comme ça dans le jardin. » J'interrompis ses doléances en disant « Monsieur Charnot, je crois qu'il faudrait transporter Monsieur Mouillard dans son lit. » « Eh, que ne le faites-vous ? » s'écria le numismate d'un air exaspéré. « Je ne m'attendais pas à servir de brancardier ici, mais puisqu'il le faut, prenez la tête. » Il prit les pieds. Madeleine marchait devant, Jeanne derrière. L'immense corps de mon oncle se balançait entre moi et M. Charnot, qui, portant dans ses bras arrondis à la hauteur de la taille les deux jambes de M. Mouillard, avait une allure d'employé des pompes funèbres. En montant l'escalier, comme nous avions peine à passer, M. Charnot me dit, les dents serrées par l'effort, « Voilà un voyage qui commence bien grâce à vous, M. Fabien. Recevez-en tous mes compliments. » Je vis qu'il me promettait, in petto, une suite d'orchestre sur ce thème. Mais l'heure n'était pas au discours. Un instant après, mon oncle gisait, toujours inanimé, sur le lit où nous l'avions couché. Jeanne aidait Madeleine à préparer des sinapismes avec une bonne grâce et une entente parfaite. M. Charnot, silencieux, attendant comme moi l'arrivée du médecin que le petit clerc était allé chercher, considérait alternativement la couronne de fleurs d'oranger de feu ma tante Mouillard, disposée sous un globe au milieu de la cheminée, et un tableau de fruits qui n'eût pas été d'un placement facile à l'hôtel des ventes. Cela dura bien 10 minutes, les longues minutes de l'attente du médecin. Nous étions inquiets. M. Mouillard ne donnait aucun signe de connaissance. Peu à peu, cependant, Les remèdes commencèrent à agir, il remua faiblement les paupières, la vie reparut, et, au moment où le docteur ouvrait la porte, M. Mouillard ouvrit les yeux. Nous nous précipitâmes autour de lui. « Mon vieil ami, dit le médecin, vous n'aurez pas au moins manqué de monde pour vous soigner. Voyons ce pouls. Un peu faible. Et cette langue ? Parlez un peu. Une émotion un peu trop forte, dit mon oncle. » Le docteur suivit la direction des yeux du malade, attaché sur Jeanne debout au pied du lit, salua la jeune fille qu'il n'avait pas remarquée d'abord, se tourna de mon côté, ce qui me fit bêtement rougir, puis, reportant ses regards sur le visage de mon oncle, il vit couler deux grosses larmes. « Oui, je comprends, une émotion trop vive, en effet, mon pauvre Mouillard. À notre âge, nous ne devrions plus avoir que celles de nos souvenirs, d'anciennes émotions auxquelles nous sommes faits et qui sont faites à nous. Mais les enfants se chargent de nous en donner d'autres, n'est-ce pas ?» Des sanglots soulevaient la poitrine de M. Mouillard. « Allons, mon ami, continua le médecin, je vous permets d'embrasser votre future nièce une fois et devant moi, pour que je sois bien sûr que vous n'abuserez pas de la permission. Après cela, plus personne ici, plus d'attendrissement, le calme absolu. » Jeanne s'avança, prit la tête du malade, la souleva. « Voulez-vous m'embrasser, mon oncle ?» Elle tendit sa joue rose. « Vous, je vous aime tout plein, dit mon oncle en l'embrassant. « Vous, vous êtes bonne !» Puis, fondant en larmes, il cacha son visage dans l'oreiller. « Retirez-vous tous, dit le docteur. » Il descendit lui-même en nous rassurant sur la santé de M. Mouillard. À peine eut-il fermé la porte de la rue que la forte voix de l'avoué tonna dans l'escalier. « Charnot !» Le vieux numismate remonta les 20 marches. « Vous m'appelez, monsieur ?»« Oui, je vous retiens à dîner. » Je ne pouvais pas vous le dire tout à l'heure, mais j'y pensais. « Vous êtes trop bon, monsieur Mouillard, mais nous partons à 9 heures. »« Je dîne à 7, vous avez le temps. »« Ce serait trop de fatigue pour vous. »« Une fatigue, mais cela m'arrive tous les jours de dîner. »« Je vous promets, monsieur Mouillard, que nous viendrons prendre de vos nouvelles. »« Je peux vous en donner tout de suite, elles sont excellentes. » « Non, non, il ne sera pas dit que vous vous serez déplacé de Paris à Bourges pour me voir m'évanouir. Je compte sur vous et sur mademoiselle Jeanne. »« Sur nous trois ?»« Avec moi, cela fait 3. Oui, monsieur. »« Pardon, 4. »« J'espère que le 4e aura l'esprit d'aller dîner ailleurs. »« Voyons, monsieur Mouillard, votre neveu, votre pupille... » « J'ai cessé d'être son tuteur depuis 4 ans, monsieur, et son oncle depuis 3 mois. Il désire tant la fin de ce dissentiment. »« Permettez que je me repose, répondit monsieur Mouillard, afin de mieux recevoir mes hôtes. » Il se recoucha, manifestant clairement sa volonté de ne plus ajouter un mot sur ce sujet. Pendant le dialogue entre monsieur Charnot et mon oncle, auquel nous assistions du bas de l'escalier, Jeanne, joyeuse tout à l'heure d'une conquête qu'elle avait crue complète, s'était assombrie. « Moi qui croyais qu'en m'embrassant, il vous avait pardonné, » dit-elle. « Que faut-il faire à présent ? Venez à notre secours, Madeleine !» Madeleine, dont le cœur commençait à s'éprendre de Jeanne, cherchait mais ne trouvait pas et secouait la tête. « Qu'il aille trouver son oncle ? » demanda Jeanne. « Non, » dit Madeleine. « Eh bien, si vous lui écriviez, monsieur Fabien !» Madeleine approuva d'un signe et, du fond de son placard, tira un petit encrier de verre, un porte-plume rouillé et une feuille de papier où volait une colombe, un rameau dans le bec. « C'est ma cousine de Romorantin qui est morte avant le 1er de l'an, dit-elle. Alors, ça m'a fait une feuille de trop. » Je m'assis devant la table de cuisine et j'écrivis, Jeanne penchée au-dessus de moi, lisant à mesure. Madeleine, attentive, debout près de l'horloge, oubliait ses fourneaux pour nous regarder de ses yeux noirs. J'écrivis donc au-dessous de la colombe. « Je suis parti de Paris, mon oncle, avec la résolution de mettre fin à un malentendu qui n'a que trop duré entre nous et dont j'ai souffert plus que vous ne pouvez le croire. Il m'a été impossible de vous parler depuis mon arrivée hier soir à 5 heures jusqu'à 10 heures ce matin. Si je l'avais pu faire, vous n'auriez pas refusé de me rendre votre affection, dont je reconnais que j'aurais dû respecter davantage les susceptibilités. Vous m'auriez donné un consentement dont dépend votre bonheur à vous-même, mon oncle, avec celui de votre neveu, Fabien. » Un peu trop solennel, dit Jeanne, à mon tour. Et, à la suite, cette Angeleuse écrivit de sa main preste : C'est à moi, surtout, monsieur Mouillard, d'obtenir votre pardon. Je suis la plus coupable et de beaucoup. Vous avez défendu à monsieur Fabien de m'aimer et je n'ai rien fait pour l'en empêcher. Hier encore, s'il est venu vers vous, c'est moi qui l'y ai poussé, l'assurant que votre excellent cœur ne résisterait pas à d'affectueuses explications. Avais-je donc tort ? Les mots que vous m'avez dit tout à l'heure m'ont fait espérer que non. Mais si je me suis trompée, ne vous en prenez qu'à moi. Rendez votre amitié à votre neveu, retenez-le à dîner à notre place et laissez-moi partir avec le regret de ne pas avoir été jugé digne de vous appeler mon oncle, comme il m'eût été si facile et si doux de le faire. Jeanne. Je relus les deux lettres. Madeleine pleurait en écoutant. Jeanne souriait du coin des lèvres. Nous sortîmes, laissant à la fidèle servante le soin de choisir le moment favorable pour remettre à M. Mouillard notre double supplique. Je dois à la vérité d'avouer qu'à peine hors du logis, pendant le déjeuner à l'hôtel et le premier quart d'heure qui suivit, je reçus de M. Charnoux la semonce la plus vive et la mieux composée que j'eusse subie depuis ma tendre jeunesse. Elle se termina ainsi. Ce soir, à 9h51, si la paix n'est pas conclue avec votre oncle, je reprends ma parole, monsieur, et nous rentrons à Paris. J'essayai de combattre la conclusion. Ce fut en vain. Une petite moue de Jeanne m'avertit que je faisais fausse route. Soit, lui dis-je, je remets la cause entre vos mains. Et moi, je la passe en celle de Dieu, répondit-elle. Soyez donc fort. Quand l'espérance ne servirait qu'à voler 2 heures aux ennuis qui nous attendent peut-être. Nous nous trouvions en face des jardins de l'archevêché. M. Charnoux y entra. L'air vif, les enfants qui jouaient, les mamans qu'il étudiait ethnologiquement, avec de savantes préoccupations de la géographie de l'ancienne Gaule, la vue des fleurs de la place Saint-Michel et, par-dessus les casernes, les peupliers de l'Oron, changèrent le cours de ses idées. Il cessa d'être beau-père et redevint voyageur. Jeanne passait avec une grâce ailée au milieu des groupes de promeneurs et le murmure qui l'accompagnait, pour être envieux parfois, n'en était pas moins doux à mes oreilles. J'aurais voulu croiser Mademoiselle Lorinet. Après les jardins de l'archevêché, il fallut visiter la place Séraucourt, le cours Chanzy, la cathédrale, Saint-Pierre-le-Guillard, l'hôtel Jacques-Cœur. Il était 6 heures quand nous revînmes à l'Hôtel de France. Une lettre nous y attendait dans le petit salon banal de l'entrée. Elle était adressée à Mademoiselle Jeanne Charnoux. Je reconnus alors l'écriture flamboyante de M. Mouillard et je devins blanc comme l'enveloppe. M. Charnoux, très nerveux, s'écria « Mais lis donc, Jeanne, lis donc !» Seule de nous trois, Jeanne souriait encore. Elle lut. « Ma chère enfant, je vous ai traité, bien familièrement peut-être, ce matin, dans un moment de trouble. Revenu à moi, je ne retire pas néanmoins les expressions dont je me suis servi. Je vous aime, vous êtes bonne. Vous ne ferez pas revenir un vieux routier comme moi de ses préjugés contre la capitale. C'est déjà beaucoup que je rende les armes à une Parisienne. Ma nièce, je lui pardonne à cause de vous. Venez tous les trois ce soir. » J'ai plusieurs choses à vous apprendre et à vous demander. Toutes ne sont pas gaies. Mais les tristesses seront noyées, je l'espère, dans la joie que vous apporterez à mon vieux cœur. Brutus Mouillard, avoué licencié. Quand nous sonnâmes à la porte de M. Mouillard, Baptiste, le petit clerc qui sert à table dans les grandes circonstances, vint ouvrir. Mon oncle nous attendait dans le grand salon, en tenue de premier de l'an, paré de sa cravate la plus blanche et de sa redingote la mieux camfrée. Pas un trou de mitte depuis 12 ans, le triomphe de Madeleine. Il nous embrassa tous, mais posément, sans cet excès de démonstration dont il est coutumier. Il se montra digne, d'une dignité simple et touchante. L'émotion qui exalte la plupart des natures refrénait la sienne. Du passé, d'ailleurs, de notre mariage même, pas un mot. Cette réunion, destinée à fournir l'occasion d'explications nécessaires, débutait par des banalités polies. J'ai remarqué qu'il en était souvent ainsi. On s'assemble pour s'expliquer, on commence par ne rien dire. Monsieur Mouillard donna le bras à Jeanne pour passer dans la salle à manger. Jeanne était en verve. Elle posait 100 questions sur Bourges, sur les bals, les modes, les œuvres de Bourges, sur la procédure même et le palais.
Je suis sûre que mon oncle sait cela, disait-elle.
L'oncle souriait chaque fois, le visage illuminé par une flamme, comme un manteau de cheminée quand le soufflet excite le feu. Il répondait, mais c'était pour retomber bientôt dans un abattement que son désir de bien recevoir ses hôtes ne parvenait à dissimuler qu'en partie. Ses préoccupations se trahissaient surtout dans les regards qu'il attachait sur moi et qui ne reflétaient plus aucune colère, mais une affection souffrante et comme suppliante. Monsieur Charnot, un peu là, un peu absorbé aussi dans l'appréciation des merveilles culinaires qu'avait produites Madeleine, jetait une interjection ou une remarque distraite dans les moments de silence. Je connaissais assez mon oncle pour savoir que la fin du dîner ne ressemblerait pas au commencement. En effet, au dessert, au moment où l'académicien célébrait les mérites d'un bonbon béruyen, la forestine, mon oncle, qui, depuis quelques instants, agitait circulairement dans son verre le vin de quelques châteaux du Médoc, s'arrêta court et reposa son verre sur la table. « Mon cher monsieur Charnot, dit-il, j'ai à vous faire un pénible aveu. »« Et s'il est pénible, mon cher monsieur, ne le faites pas. »« Fabien, continua mon oncle, a eu des torts envers moi. Je n'y reviens plus, ils sont oubliés. Mais j'en ai moi-même envers lui. »«
Vous, mon oncle ?»
Hélas oui, mon enfant, mon étude, l'étude héréditaire que j'avais promise à ton père de te conserver fidèlement.
Vous l'avez vendue ?
Mon oncle cacha sa tête dans ses mains.
Hier soir, mon pauvre enfant, hier soir.
Je le supposais. J'ai été faible, j'ai succombé au conseil de mon ressentiment, j'ai compromis ton avenir. À ton tour, Fabien, pardonne-moi. Il se leva de table, vint à moi, et m'entoura de ses bras.
Non, mon oncle, vous n'avez rien compromis et je n'ai rien à vous pardonner.
Tu ne prendrais pas l'étude si je te l'offrais encore ?
Non, mon oncle.
Bien vrai ?
Bien vrai.
Monsieur Mouillard se redressa épanoui.
Ah, tant mieux, mon garçon, tu me tires d'un grand ennui.
Il essuya du coin de sa serviette deux larmes nées en temps de guerre et qui continuaient à couler en temps de paix. Si mademoiselle Jeanne, avec toutes ses autres perfections, t'apporte la fortune, Fabien, si ton avenir est assuré...
Mon cher monsieur Mouillat, interrompit l'académicien avec une satisfaction mal voilée, mes collègues me prétendent riche. Ils me calomnient. Les travaux de numismatique n'enrichissent pas. Monsieur Fabien, qui a pris des renseignements à ce sujet, pourra vous le démontrer.
Non, je possède seulement cette honnête aisance qui ne permet pas de tout avoir, mais qui ne laisse manquer de rien.
Aurea mediocritas, s'écria mon oncle, enchanté de la citation.
Ah, monsieur, c'est Horace!
N'est-ce pas? Je disais donc que nous avions le pain assuré.
Ce n'est pas une raison pour que mon gendre végète dans un repos qu'à mon âge, je ne crois pas encore le droit de prendre.
Très bien.
Il travaillera donc.
Mais à quoi, s'il vous plaît?
Il y a d'autres situations que celle d'avouer, monsieur Mouillard. J'ai étudié Fabien. C'est une nature un peu vagabonde qu'une éducation spéciale lui fait artiste et qui, faute de cette formation première, restera simplement rêveuse.
Je ne l'eusse pas si bien dit, mais je l'ai souvent pensé.
Avec une nature comme celle de votre neveu, continua monsieur Charnot, le mieux est d'entrer dans une carrière où l'idéal est sa part, non prédominante mais suffisante, une carrière entre prose et poésie.
Notaire alors ?
Non, c'est tout prose. Bibliothécaire.
Vraiment ? Bibliothécaire ?
Il y a de ces petites bibliothèques à Paris, monsieur Mouillard, silencieuses comme des bosquets, où l'on trouve des places tranquilles comme des nids. J'ai quelques relations dans les ministères et cela ne saurait nuire, vous comprenez ?
Parfaitement.
Nous placerons là notre Fabien, protégé contre l'oisiveté par le peu qu'il fera et contre les révolutions par le peu qu'il sera. Métier charmant, voyez-vous, car l'odeur seule des livres est intelligente. La respirer, c'est déjà vivre par l'esprit.
La vie de l'esprit, dit mon oncle enthousiasmé.
Oui, la vie de l'esprit.
Et les cataloguer, monsieur Mouillard, les compulser, les préserver autant qu'on le peut, du verre et du lecteur, croyez-vous que ce ne soit pas un sort enviable ?
Oui, plus enviable que n'a été le mien et que ne le sera celui de mon successeur.
À propos, mon oncle, vous ne l'avez pas nommé ce successeur ?
En vérité,
mais tu le connais, ton camarade à l'arrivée.
Ah, cela m'explique plusieurs choses.
Un garçon bien sérieux.
Extrêmement sérieux, mon oncle. Est-ce qu'il ne se marie pas ?
Eh oui, un riche mariage.
Contre qui ?
Mon cher, il prend tout ce que tu lui laisses. Il épouse Mademoiselle Lorinet.
Courageux jeune homme.
Mais, mon oncle, ce n'est pas avec lui que vous causiez hier soir ?
Pourquoi donc pas ?
Vous aviez dit à Madeleine de recevoir un monsieur décoré.
Il l'est.
De quel ordre, grand Dieu ?
Du Nisha Miftikar, s'il te plaît.
Cela ne me déplaît pas, mon oncle, et cela m'étonne moins encore.
L'arrivée mourra, la poitrine plus décorée qu'une bannière d'Orphéon. Il sera membre de toutes les sociétés savantes du département, considéré, considérable, provincial à l'excès, après avoir été furieusement parisien. Les maires lui confieront leurs soucis, les pères leurs intérêts. Mais quand ses vieux camarades passeront à Bourges, ils garderont la liberté de lui éclater de rire au nez.
Jaloux, tu es jaloux de son ruban.
Non, mon oncle, je ne regrette rien, rien.
Monsieur Mouillard baissa la tête et reprit, après un moment de silence.
Moi, Fabien, je regrette quelque chose. Vieillir seul ici, ce sera triste quelquefois. Mais enfin, je me consolerai en pensant que vous rirez, vous autres, en vous recevant aux vacances.
Faites mieux, dit Monsieur Charnot, venez vieillir avec nous. Les années en seront moins lourdes, Monsieur Mouillard.
Sans doute, nous les portons toujours, elles nous pèsent, elles nous courbent. Mais cette jeunesse, qui n'est pas embarrassée des siennes, soulève toujours un petit coin des nôtres.
Je fus très surpris de voir que mon oncle ne se récriait pas.
Il fait beau, allons au jardin, dit-il simplement, et vous jugerez si on peut quitter des rosiers pareils.
Content de lui, de moi, d'elle, de tous et du temps, M. Mouillard nous emmena au jardin.
Il n'y avait plus assez de lumière pour distinguer les roses, mais nous les sentions en passant près d'elles.
J'avais pris le bras de Jeanne et nous allions devant, dans l'ombre fraîche, de préférence par toutes les petites allées qui tournent. Les oiseaux étaient endormis. Mais les cigales, les grillons, je ne sais quelle bestiole tapis dans l'herbe, dans la mousse des arbres, chantaient et parlaient à leur place.
Derrière nous, un peu loin, le plus loin que nous pouvions, le sable craquait sous le pas égal des deux vieux et nous entendions, comme un murmure, des lambeaux de phrases.
« Une petite fille, monsieur Charnot, comme Jeanne. »«
Un petit-fils, monsieur Mouillard, comme Fabien. »
Paris, 18 septembre.
Nous sommes mariés, nous revenons de l'église. Les adieux sont faits à tous nos amis, non sans quelque tristesse, aussitôt couverte par la joie, dont c'est la pleine marée dans mon cœur pour la première fois et à perte de vue. Avant de partir pour l'Italie, dans 2 heures, j'écris sur ce cahier brun que je n'en porterai pas. Jeanne, ma Jeanne, penchée, lit par-dessus mon épaule. Cela trouble mes souvenirs. Il y avait beaucoup de monde à l'église. Les journaux nous avaient inscrits parmi les grands mariages de la semaine. L'Institut, l'armée, les gens de lettres ou de ministère étaient venus pour M. Charnot. Les hommes d'affaires, berruyens ou parisiens, pour mon oncle. Les plus heureux, les plus radieux après nous, ceux qui ne venaient là que pour Jeanne et pour moi, c'était le peintre ordinaire de Mademoiselle Charnot, Sylvestre Lampron, qui a mis son joli dessin du salon dans la corbeille de noces, M. Flammarant et Sidonie, Jupille, qui pleurait comme il y a 30 ans, M. et Mme Plumet, portant à tour de rôle leur fils en robe blanche. Nous avons certes donné, Jeanne et moi, bien des poignées de main, mais pas autant que M. Mouillard. Rasé, cravaté avec un soin extrême, il tournait dans la foule comme une toupie, tirant toujours après lui quelqu'un qui devait le présenter à quelque autre. « Il faut bien se créer des relations quand on arrive, » disait-il. « Car il arrive, mon oncle Mouillard, il se fixe auprès de nous, quai Malaquais, dans un coquet appartement que Jeanne lui a choisi. Il le trouve délicieux, puisqu'elle l'a trouvé bien. Chez lui, le vieil étudiant s'est réveillé tout à fait et ne se rendormira plus. Déjà, il connaît mieux que moi les lignes d'omnibus et de tramway. Il parle de Bourges comme s'il avait quitté depuis 20 ans. Du temps que j'habitais la province, Fabien. Mon beau-père possède en lui le plus fervent de ses admirateurs, peut-être même un futur disciple en numismatique. Leur amitié me fait songer à celle. Vous permettez, Jeanne ?
Oui, mon ami, puisque le cahier brun n'est que pour nous deux.
À celle du rat de ville et du rat des champs. Tout à l'heure, comme nous rentrions à la maison, ils ont eu une conversation tour à tour mouillée et joviale, où leurs deux natures se rencontraient dans le même sentiment, mais aux deux extrémités de la gamme des nuances. J'en ai retenu un fragment. « Mon cher Charnot, savez-vous à quoi je pense ?»«
Non, je ne m'en doute pas. »«
Je pense que c'est bien curieux. »«
Quoi donc ?»«
De voir un bibliothécaire commencer par une tache d'encre. » Car, vous ne pouvez le nier, le mariage de Fabien, sa position, mon retour dans la capitale, tout est venu de là. Ce devait être de l'encre sympathique, qu'en dites-vous?
Félix culpa, en effet, monsieur Mouillard, il y a d'heureuses sottises, mais on ne sait pas lesquelles, et ce n'est jamais une raison d'en faire.
À peine si, dans la foule qui l'aborde, j'ai pu retenir un instant l'emprunt, plus sauvage et plus mon ami que jamais.
« Es-tu pleinement heureux, m'a-t-il dit ?»«
Pleinement.
Quand tu le seras moins, tu viendras me voir. »«
Mais nous le serons toujours autant, a dit Jeanne, et je crois qu'elle a raison. »
L'emprunt a souri.
« Oui, je le suis pleinement, Sylvestre, et ce bonheur m'est venu par toi, par elle, par les autres. Moi, je n'ai rien fait pour être heureux que de me laisser aller à la dérive de la vie. Quand j'ai voulu donner un coup de rame, tout a failli chavirer. » Tout ce que les autres ont tenté pour moi a réussi. C'est une pensée qui me confond. Rappelle-toi, en effet, j'ai connu Jeanne grâce à M. Flammarant qui m'a poussé vers son ami. Tu lui as fait la cour pour moi en dessinant son portrait. Madame Plumet s'est chargée d'emporter la nouvelle, puis de briser l'obstacle contre lequel je m'étais heurté. Si j'ai rencontré Jeanne en Italie, c'est à cause de toi. Tu as encore achevé la demande en mariage commencée par Flammarant. Enfin, la position que je n'avais pas m'a été trouvée par mon beau-père. Qu'ai-je fait, moi ? J'ai aimé, pleuré, souffert, rien de plus, et je tremble, à présent, de devoir ma joie à tout le monde, sauf à moi-même. Non, mon ami, ne tremble pas et ne sois pas surpris, et ne change en rien ta manière. Le bonheur, tu le mérites. Et qu'importe la façon dont Dieu s'y prend pour le payer. C'est une rente viagère que te servent tes parents, tes amis, les indifférents et les choses elles-mêmes. Eh bien, touche les intérêts et ne t'occupe pas du reste. Puisque l'emprunt l'a dit, lui qui est philosophe, mon avis est de suivre son conseil. Si donc vous le permettez, Jeanne, je n'aurai pas d'ambition, hormis celle d'être aimée de vous, et je me garderai de courir après des augmentations de crédit ou de fortune qui pourraient être des diminutions de bonheur. Si vous y consentez, Jeanne, nous verrons peu le monde et beaucoup nos amis. Nous n'ouvrirons pas trop les fenêtres pour que l'amour, qui a des ailes, ne s'envole pas. Si vous le trouvez bon, Jeanne, vous gouvernerez la maison à votre fantaisie, je veux dire selon votre sagesse. Vous serez souveraine dans toutes les questions d'ordre intérieur et de ménage, vous déciderez si nous devons sortir, rester, visiter, voyager. Moi, je me laisserai guider, comme un enfant, dans le sentier joyeux où je marche après vous. J'ai regardé Jeanne. Elle n'a pas dit non.